On va commencer le chapitre 22. Dans les chapitres 20 et 21, Perek Raf et Perek Raf Aleph, on s'est longuement arrêté sur la notion de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Comment En od mi levado, comment il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu, et comment la croyance de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On a expliqué longuement que ça veut dire quoi, que croire que l'Éternel est un, ça veut dire que tout est Dieu. Ça, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Tout est Akadosh Baruch Hu. Okay. Bon, ça c'est... Voilà, le Tania. Non, le Tania. On reprend son Tania.
D'accord.
Donc, on avait... ça, c'est la conclusion à laquelle on était arrivé. On avait expliqué que tout est Akadosh Baruch Hu.
Monsieur.
Okay. Non, c'est bon, c'est bon.
Je connais.
Ouais. Bonsoir. Ça va, Rachel? Dans le tiroir à la droite de la Bima.
Ah, j'ai oublié d'en ramener.
Ok. Donc ça c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Ok. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que la croyance Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est croire au fait qu'il y a un seul Dieu, et pas seulement qu'il y a un seul Dieu, que toute l'humanité et tout ce qu'elle contient, tout ça en vérité, c'est une seule entité qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. D'accord. Maintenant aujourd'hui on va s'arrêter sur la notion de Avodah Zara. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie pour vous? C'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi pour vous l'idolâtrie? Alors, on va faire un tour de table.
Attends, laisse-moi que je note.
D'accord.
C'est adorer d'autres dieux que Dieu.
Non. Donc c'est quoi? Donc ça veut dire pour... C'est quoi pour vous un idolâtre?
C'est quelqu'un qui
croit adorer un individu.
Ça va? Tu nous as ramené du renfort, je vois.
Et dire que c'est ton dieu.
Ouais, mais dans le
temps, j'ai des livres, s'il te plaît. Dans
la question, c'est là. La voie d'Azara, c'est chose.
Chapitre 22, on va commencer un nouveau chapitre.
Ouais, c'est un peu depuis si j'explique ça.
Alors, vous m'avez dit, monsieur Benita, vous avez dit, c'est quoi voie d'Azara?
Qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle même pas.
Adorer.
Adorer, donc adorer un autre Dieu que Dieu.
D'accord.
Moi, je dis que c'est.
Alors, adorer un autre Dieu que Dieu, mais ça veut dire, est-ce que vous admettez qu'il y a un Dieu?
Bah oui.
Oui, plusieurs même. Du moment où je dis adorer un autre Dieu que Dieu, donc ça veut dire sous-entendu, il n'y a qu'un Dieu.
D'accord, mais donnez-moi un exemple concret. C'est-à-dire que, est-ce que celui qui est idolâtre croit en Dieu?
Ça, c'est pour toi, ça.
Non, il croit en plusieurs dieux.
Non, mais est-ce qu'il croit en Dieu, déjà?
Oui, enfin, oui, il croit en Dieu.
D'accord. C'est quoi votre Azara pour toi? C'est quoi l'idolâtrie?
Adorer autre chose que Dieu.
Adorer autre chose que Dieu. Mais tu adores Dieu aussi?
Oui.
D'accord. Pour toi? Parce que la définition est très importante. Parce que vous allez, le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer comment la notion de Avodah Zara nous parle à tous. Chapitre 22, on va commencer. Avraham.
Si on traduit déjà mot à mot, Avodah Zara, c'est quoi? C'est un service.
Étranger, d'accord. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire faire quelque chose dans sa vie, pas pour Dieu.
D'accord, ok. Donc faire quelque chose dans sa vie qui n'est pas pour Dieu, ça veut dire donc ne pas croire en l'unicité de Dieu. D'accord. Ton prénom?
Dylan,
moi c'est Mandy. Alors d'après toi, donc aujourd'hui la question qu'on se pose, c'est quelle est la définition de l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi Avodah Zara?
Oh my god! C'est... Adorer autre chose que Dieu.
Adorer autre chose que Dieu. D'accord. Pour toi, toi c'est...
Bonjour Gabriel.
Gabriel.
Je pense que c'est adorer quelque chose, mais à un point que justement on voit plus Dieu.
Ah, à tel point qu'on voit plus Dieu. C'est très important ce que tu viens de dire. Très important. J'y arrive. À tel point qu'il voit plus Dieu. Très important. Samuel.
Pour moi, idolâtre, c'est croire en un autre Dieu.
Croire à un autre Dieu.
Et donc renier son Dieu si on sait qu'on en est un.
D'accord. Pour vous?
Alors, pour moi, c'est prendre un objet, une chose, qui va matérialiser la croyance matérielle de Dieu, sachant que, comme il n'est pas accessible, il est invisible, il se réfugie là-dessus. Et donc, c'est dénigrer après
dénigrer
la véritable présence de Dieu.
Ok. Marcel?
En fait, il adorait un objet ou un individu... à tel point qu'on ne voit plus Dieu, comme il dit, et en faire son Dieu, quoi.
D'accord.
Dan.
Moi, c'est de ne pas voir Dieu comme étant la réponse à toutes les solutions.
Très, très bon point. Excellent. J'y arrive. Ça, c'est un très bon point. Ça va être une base du chapitre.
Donc, avoir besoin d'aller voir ailleurs.
D'accord. Michael.
Quoi?
Quelle est la définition de l'idolâtrie pour toi?
Peut-être en heureux. Non.
Adorer un objet ou un homme.
D'en faire un dieu.
Ok. Alors, vous savez, en fait, le piège est très simple. Il faut chercher la traduction littérale de l'hébreu. Comment on dit l'idolâtrie en hébreu? On dit Avodah Zara. Traduction littérale, ça veut dire un service qui est étranger. Ça veut dire quoi un service qui est étranger? ça veut dire partir d'une base qu'il y a un élément sur Terre qui est indépendant d'Akadosh Baruch Hu, qui fait ce qu'il veut. Alors bien sûr que Avodah Zara au sens littéral, l'idolâtrie au sens littéral, c'est aller dans une église, aller chercher un autre Dieu. Mais en fait, ce qu'il va expliquer dans ce chapitre, c'est que d'une certaine manière, on peut tous tomber dans la faute de Avodah Zara, sans rentrer dans une église, simplement en s'énervant. C'est le fameux exemple que la Gemara amène, qu'on va développer. La Gemara a dit que celui qui s'énerve, c'est comme si il fait Avodah Zara. Quel rapport? Parce que quand je m'énerve, pourquoi je m'énerve? Je m'énerve parce qu'il y a quelque chose, que je ne contrôle pas. Ça veut dire que je pars de la base que si, qui c'est qui aurait dû contrôler la situation? C'est moi. Donc ça veut dire que je pense que ce qui se passe n'est pas une situation contrôlée. Et Dieu dans tout ça, où il est? C'est lui qui contrôle la situation. Mais au moment où je m'énerve, en bataille, je n'admets pas, en tout cas à ce moment-là, je n'admets pas que c'est Dieu qui est en train de gérer cette situation. Et donc je vais m'énerver contre celui qui m'a énervé, contre le bouchon, contre le bouteillage, contre celui qui m'a fait une crasse. Enfin, je vais m'énerver contre lui. Alors qu'en vérité, bien sûr que celui qui m'a causé du tort, il m'a causé du tort, ça je n'enlèverai pas. Mais quand je m'énerve, ça veut dire quoi? Ne pas accepter que je ne contrôle pas la situation. Ça veut dire que quelque part, je me suis rendu une idole. Je me suis rendu un élément étranger à Dieu. C'est quoi Avodah Zara? C'est partir d'une base qu'il y a un élément que Dieu ne contrôle pas et que c'est autre chose qui se contrôle. Donc ça peut être un autre élément, ça peut être un autre Dieu, mais ça peut être moi aussi. Que je m'extrais de Dieu, et je pense que c'est moi qui gère la situation et que quand je ne gère pas la situation, je m'énerve. Alors bien sûr, je me souviens je vous arriver au tournant. Évidemment, évidemment que Avodah Zara, dans le sens halachique du terme, dans Shulchan Aruch, c'est... Bien sûr, aller chercher une autre idole, d'accord, au point qu'on va l'adorer, etc. Parce que sinon, une personne qui aime sa femme, une personne qui aime ses enfants, ça veut dire c'est une idole. Non. Ouais. Évidemment non, c'est phrase de Shalom, on ne parle pas comme ça, d'accord. Une personne qui aime une Ferrari, voilà, par exemple.
Là,
ça se discute. Sujet, Ferrari, ça se discute.
C'est sensible.
Donc ça, c'est le but qu'il veut expliquer ici. Le but qu'il veut expliquer ici, c'est que de la même manière que le but du schéma Israël, qu'on a expliqué dans le chapitre 20 et 21, c'est quoi? C'est accepter le fait qu'il n'y a qu'un Dieu et que l'unicité de Dieu, ça veut dire que tout est Dieu. De la même manière, Avodah Zara, le deuxième commandement, le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu », ça veut dire tout est Dieu. Deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu à part moi. Un Dieu, c'est pas forcément un autre Dieu. Un Dieu, ça veut dire une force extérieure, autre chose qui est à part Dieu. Et ça, c'est le sens profond de Lo Yelecha Elokim Acharim Al Panai. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit qu'en vérité, si on s'approfondit sur les deux premiers commandements, on a tout à Torah. Premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est la base de tous les commandements positifs. Accepter que Dieu gère tout. Deuxième commandement, « Tu n'auras point d'autre Dieu à part moi ». C'est la base de tous les commandements négatifs. Ça veut dire accepter le fait que Dieu est la seule personne qui décide et que personne à part Dieu ne peut décider. Donc, du coup, je m'énerve pas. Du coup, je décide pas. Du coup, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Maintenant, un dernier point que je voulais terminer. Après les questions. Ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est une notion très importante, à savoir, finalement, qu'est-ce que le mal? Est-ce que le mal est indépendant d'Akadosh Baruch Hu? Quand vous prenez par exemple, quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Ahmadinejad, dit Marchemo. Quand vous prenez quelqu'un comme le Satan. Le mal en personne, d'accord? Il est là pour te faire du mal. Alors, est-ce qu'il est indépendant? Si tu me dis qu'il n'est pas indépendant, le Satan, c'est celui qui veut nous causer du tort. Je vais arriver. Une personne qui veut te causer du tort. Une personne vraiment, une personne comme Ahmadinejad ou comme Amalek qui veut te causer du tort. Alors, de deux choses l'une. Soit tu vas me dire qu'il est indépendant. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un élément qui est extérieur à Dieu. Et ça, c'est pas bon. Soit tu vas me dire qu'il n'est pas indépendant et que c'est Dieu qui gère tout. Comment Dieu peut faire du mal? Donc c'est la grande question que tout le monde se pose. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des éléments sur cette terre qui échappent à Dieu? Ça, c'est la grande question d'aujourd'hui.
Non, c'est possible.
Des fois, on a l'impression que oui.
Si, avec ce qu'on voit autour de nous,
il se retire.
Alors, je vais vous dire quelque chose, M. Benita. Dans ce cas, j'ai une question très simple. Si vous allez me dire qu'il y a des choses qui échappent à Dieu et que Dieu reste le patron, quand moi je suis le patron à bord, quand il y a un élément que je ne peux pas supporter et que je suis le patron à bord, qu'est-ce que je fais avec cet élément? Je le vire. Alors, pourquoi quand il y a des gens qui ne se comportent pas comme Dieu il veut, pourquoi Dieu ne les vire pas? Si tu me dis que Dieu est le maître à bord à chaque instant, c'est pas que Dieu il dit je vous laisse avancer les enfants et après on fera le résultat des courses. On a dit non, c'est pas ça Shema Israël. Shema Israël, ça veut dire partir de la base que tout est Dieu. Et Avodah Zara, c'est quoi? c'est croire qu'il y a un élément qui, à un seul instant, est indépendant de Dieu. Alors, je comprends pas. Dans ce cas-là, comment ça fonctionne? Comment est créé le mal? Qui c'est qui a créé le mal? Comment il fonctionne? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il n'est pas indépendant?
Mais c'est Hachem qui a créé le bien et le mal. Il bien. A créé en avec sa chose et son contraire. Donc, en dualité.
Alors.
Donc, c'est normal.
Ça veut dire, la question qu'on cherche à comprendre ici, c'est comment est venu le mal? Dieu, il a créé le monde. Comment le mal a débarqué? Comment ça s'est passé? Dieu, c'est le bien. C'est que du bien. Dieu, c'est le tov. Comment, de la création du monde, il n'y a pas avoir du mal? Le mal, il a bien été créé. Comment le mal a été créé? D'accord? Donc, en d'autres termes, est-ce qu'à un certain moment, il a échappé à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est la question qu'on va... Bien sûr, la réponse, vous la connaissez. Bien sûr, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Mais il faut expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne. En d'autres termes, c'est très intéressant ce qu'on étudie aujourd'hui. C'est, qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans l'enchaînement des mondes? C'est-à-dire, depuis la création du monde, comment les choses se sont enchaînées jusqu'à la création du mal? Quelque chose qui, en apparence, a l'air indépendant d'Akadosh Baruch Hu, mais qui en vérité c'est Dieu qui continue à l'alimenter. Comment ça s'est passé? Donc ça, Bezrat Hashem, on va prendre notre temps pour développer tout ça. Il y avait une question.
En fait, ça n'a rien à voir, je crois, avec le cours, mais enfin, comme tu en as parlé, donc voilà. Dans le premier et deuxième commandement, il y a le premier commandement, c'est je suis ton éternel, ton Dieu. Mm-hmm. Le deuxième, c'est
tu n'auras pas
d'autre.
D'accord.
Pourquoi tu n'auras pas d'autre? Pourquoi il y en a d'autres?
Alors, ce qu'on a expliqué. Quand on a dit je suis l'éternel ton Dieu, c'est pas seulement dire que je suis qu'Akadosh Baruch Hu c'est notre Dieu. C'est pour dire que tout est Dieu. Tu te rappelles ce qu'on avait expliqué? D'accord. Quand tu dis tu n'auras point d'autre Dieu à part moi, pareil, c'est le même commandement mais dans l'autre sens. Ça veut dire que tu n'auras pas un élément dans ta vie qui sera extérieur à Dieu. C'est ça le pshat. Mais c'est très compliqué ça. Très compliqué. Vous savez ce que la Gemara a dit, enfin la Gemara dit pas explicitement. La Gemara a dit que à l'époque, le Yetzer Hara, pour faire Avodah Zara, pour faire l'idolâtrie, était aussi fort que le Yetzer Hara qu'on a aujourd'hui pour les femmes. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens, ils allaient en courant pour aller rentrer dans les églises. Comme une personne aurait couru pour une femme aujourd'hui. C'était comme ça. Et la Gemara a dit que les Chachamim ont demandé à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il a enlevé ce Yetzer Hara. Seulement, il y a des commentaires qui disent qu'à Kadosh Baruch Hu, il a échangé ce Yetzer Hara contre le Yetzer Hara de l'argent. La course vers l'argent. D'accord. Et une fois l'Admor Hazaken, il a fait, dans un commentaire à l'oral qu'il a fait, j'ai pas retrouvé par écrit, mais dans un commentaire à l'oral qu'il a fait, il a dit, je sais pas ce qu'ils ont gagné.
Oui, du coup.
Comme ça, il a dit. Il a dit, je sais pas ce qu'ils ont gagné. Il a dit, ils ont enlevé l'idolâtrie, ils ont mis à la place l'argent. Il a dit, je sais pas ce qu'ils ont gagné, parce que d'une certaine manière, l'argent c'est l'idolâtrie.
Ah oui, bien sûr.
D'accord. Maintenant, certainement qu'avec le temps, on va comprendre pourquoi ils l'ont fait. Mais en tout cas, l'Admor Hazaken, il a dit, je sais pas ce qu'ils ont gagné. Comme ça, texto. Bon, alors maintenant on va essayer de développer, de comprendre encore une fois quel est le sens de Avodah Zara, quel est le sens de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie dans notre jour, dans la vie de tous les jours? Et vous allez voir qu'en vérité l'idolâtrie, ça peut être même un smartphone.
Oui.
Ça peut être l'idolâtrie.
Oui. Oui.
D'accord. Ah. Eh ben oui. Tout peut être une idolâtrie. Ça aussi, ça peut être une idolâtrie.
Non, il aime ça.
C'est pas idolâtrie.
Tout peut être une idolâtrie. Ça veut dire, dès que on perd le contrôle d'une chose, et que du coup, on est quelque part esclave dépendant à quelque chose, ouais, dépendant de quelque chose. Il y a un problème.
Oui, mais alors, est-ce qu'on n'est pas esclave de la prière aussi, puisque
c'est Dieu la prière. Attendez.
D'accord.
Non.
Enfin,
oui, on est esclave de Dieu. Oui.
Oui.
Donc, bien sûr, on est. Ça, il n'y a pas de problème.
C'est Avodah. Donc, c'est une addiction aussi, pareil que le tabac ou l'alcool.
Okay. On va développer.
Ouais, sauf qu'elle,
alors,
elle est moins nuisible.
Rak, Shatora. Alors, vous savez, on va arriver. Voilà. Rak Shatora, donc je suis au début du chapitre 22. Rak Shatora dibra belashon bene adam. Rappelez-vous ce principe. La Torah a parlé dans le langage. Donc vous avez la page, je ne sais pas quelle page c'est en français.
Et
merci.
Il
reste des taniers encore là-bas, hein, Michael. Dans l'armoire là-bas. Ah, mais voilà. Ok. Chapitre 22. Rak Shatora dibra belashon bene adam. La Torah a parlé dans le langage des hommes. Venikra ba Torah diburo shel makom baruchu. Béchem dit bon mamash, dans la Torah, quand on parle de la création du monde, on dit que Dieu a parlé, bien qu'il n'a pas parlé. Qu'est dit bourro shel Adam, comme la parole d'un homme. Pourquoi? Les fiches et behemet karou. Puisqu'en vérité, chez Akadosh Baruchou, derer yeridat veam shachat achayut les tartonim. Alors rappelez-vous, c'est une idée qu'on avait expliquée longuement. Chapitre 22, comment chapitre 22?
273.
Vous êtes dans le 2 là.
Serge, va chercher dans le placard, il y a des livres encore là-bas, s'il te plaît. Tome 2. Non, mais il y a plein de livres là-bas, il y a des livres blancs encore, il y en a plein.
Non, bon lieu.
Je ne m'attendais pas que Samuel nous amène du renfort. Donc, je viens de commencer chapitre 22. Rak Shea Torah, Dibera, Belashan, Bene Adam. Je reprends. La Torah a parlé dans le langage des hommes. Et quand la Torah te dit que Dieu va yomer lokim yei or, va yei or, quand la Torah te dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, ça veut dire que Dieu a parlé. Ça veut dire qu'il faut reprendre la manière qui se passe quand moi je parle. Qu'est-ce qui se passe quand moi je parle? Quand je parle, j'exprime une idée, je fais descendre une idée. J'avais une idée qui était dans ma tête, à laquelle j'ai réfléchi. Je fais descendre cette idée, on dit bien le terme descendre. Je fais descendre cette idée, et je vais la développer, et je vais la transmettre à quelqu'un. D'ailleurs, très souvent, quand vous avez un sentiment qui est très fort, et que vous le traduisez dans des mots, vous sentez que les mots que vous êtes en train de dire n'expriment pas à 100% ce que vous ressentez. Parce que forcément, quand on dit quelque chose dans des mots, on descend de niveau, puisqu'on est obligé de limiter le sentiment. Très bien. Pourquoi on nous dit que Dieu a créé le monde par la parole? C'est une image que la Torah utilise pour te dire que Dieu est descendu de niveau. Dieu s'est limité, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y avait une grande lumière, il y avait une grande émanation, et Dieu, il s'est limité. Et après, il se limite. Et après, à chaque fois, plus on avance et plus on se contracte, jusqu'à qu'on va arriver. Regardez bien. Betzimtzumim rabim va'atzumim, donc dans plusieurs contractions, minim minim shonim, d'accord, donc de plusieurs types de contractions, comme c'est expliqué longuement dans la Kabbalah, leibarot me'em beru'im rabim minim minim shonim. Donc Akadosh Baruch Hu, s'il n'avait pas fait ces contractions, ces différentes contractions, le monde n'aurait pas pu exister. Pour que Akadosh Baruch Hu crée ce monde, il a eu besoin de se contracter, pour enfin donner la place à ce monde. Je vais donner un exemple très simple qui est ramené très souvent en Chassidout. C'est comme si, par exemple, imaginez que vous êtes quelqu'un qui est hyper, hyper intelligent. Et que personne dans la salle fait votre poids. Bon. Maintenant, dans la salle, il y a des gens, maintenant, personne n'est aussi intelligent que vous. Mais il y en a un qui est juste en dessous de vous. Il y en a un autre qui est encore en dessous. Et il y en a un, c'est le dernier, c'est le bébé. Bon. Vous avez une idée que vous avez dans votre tête. Vous voulez l'expliquer. Qu'est-ce que vous allez faire? L'idée telle que vous l'avez dans votre tête, elle est trop puissante. Ceux qui sont, si vous la dites telle qu'elle, ils vont rien comprendre. Donc vous allez l'habiller dans des mots. Vous allez la faire descendre. Vous allez prendre cette idée et vous allez essayer de la faire descendre. Maintenant, vous allez la faire descendre. D'abord, vous allez la faire descendre au niveau numéro 1. Pour celui qui est pas aussi intelligent que vous, mais qui est presque. Donc lui, tu vas adapter un petit peu, il va comprendre. Après, celui qui est en dessous, il comprend toujours pas. Donc, pour celui qui est en dessous, tu vas faire l'adaptation de l'adaptation. Et en dessous, etc. Comme ça, on fait adaptation. Et à la fin, tu vas faire tellement d'adaptation qu'à la fin, même un gamin, il va comprendre ce que tu vas dire. Pardon. Maintenant, qu'est-ce qui reste du message initial? Bah, il reste peut-être l'essence du message initial. C'est-à-dire, c'est l'idée principale. Mais enfin, la force, d'accord? Et la puissance du message initial, elle n'est plus là.
En fait, t'as le produit fini, t'as pas le développement.
Voilà. C'est-à-dire, tout le développement, quelque part, on l'a zappé. C'est la même chose. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, d'abord, il a créé le Olam HaAtzilut. Il a créé ce qu'on appelle le monde de l'émanation. C'est un monde dans lequel se trouvent les tzadikim comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Rabbi, comme des grands tzadikim. C'est-à-dire des grandes pointures. Ça, c'est premier niveau. Deuxième niveau, Kadosh Baruch Hu, il a créé le Olam HaBeria. Olam HaBeria, c'est le monde dans lequel se trouvent les anges. D'accord? Troisième niveau, il a créé à Kadosh Baruch Hu le Olam HaYetzira. Olam HaYetzira, c'est un monde dans lequel il commence à se trouver certains hommes. Quand je dis un monde, ça veut dire c'est un niveau dans lequel se trouvent certaines neshamot, mais qui sont d'un haut niveau, mais pas aussi haut que les tzadikim. Et enfin, le dernier niveau, c'est quoi? C'est Asiya, c'est notre niveau. C'est quand on a eu l'adaptation. Donc là, je suis en niveau 4. Maintenant, dans chacun de ces 4 niveaux, à Kadosh Baruch Hu, il contracte, il réduit et il adapte. Donc vous imaginez que quand on est maintenant ici-bas, est-ce qu'on voit Akadosh Baruch Hu? On le voit pas, mais Akadosh Baruch Hu est là. Voilà pourquoi la création du monde est comparée à la parole. Il faut imaginer comme un message qui a été adapté 4 fois d'affilée. Donc chaque fois que tu l'adaptes, tu le réduis. Et donc le message a été adapté 4 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Là, je vous ai fait en gros les 4 lamotes. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'est tellement adapté, Ve kol kar gavru, et là j'arrive où je voulais arriver, ve kol kar gavru ve atzmu atzimtzumim, tellement Akadosh Baruch Hu s'est contracté, ve ester panim alyonim, mais tellement il se cache. Parce que s'il montre qui il est, personne n'aura un libre arbitre. Tellement il se cache et se contracte, at shiyuchlu leit avot ou leit barot gam tvarim tmeim, jusqu'à que vont être créées des choses qui sont impures. Ou klipot, les forces du mal. Ve sitra ahara, pareil. Les kabel chayutam ve kayumam mitvar hashem v'ruapu idvare be'estar panim idrata madrigot. Voilà, ça je vais expliquer tout de suite. Ça veut dire que qui c'est qui donne l'énergie et la vitalité à toutes ces forces de l'impureté, toutes ces choses-là, qui c'est qui leur donne leur énergie? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi il y en a qui sont purs, il y en a qui sont impurs? La réponse est très simple. C'est que tous les éléments qui sont purs dans le monde, ils reçoivent leur énergie directement de l'Akadosh Baruch Hu, sans passer par un voile, sans passer par une adaptation. Tous les éléments qui sont impurs, c'est passé par une adaptation. Jusqu'à qu'à la fin, on a tellement adapté qu'on a oublié qui c'est qui était le donneur d'ordre initial. Et donc du coup, eh ben, quand on est au dernier message, quand on est vraiment tout en bas, on peut avoir le produit fini, quelque chose qui est impur, c'est-à-dire quelque chose qui se bat contre un Kadosh Baruch Hu. Donc on a, alors qu'à la base tout est pur, l'origine tout est pur. En d'autres termes, pour simplifier, c'est comme si par exemple vous avez un message à faire passer. Bon. Alors, il y en a un qui capte aussi votre message. Ça, c'est la Kedusha. Il y en a un autre qui capte pas. Vous allez descendre, tellement vous allez descendre, qu'à la fin, le bonhomme, il va dire, mais en vérité, c'est moi qui ai trouvé le message. Et il va se battre contre vous. Je dis, mais attends, mais c'est moi qui l'ai tout dit. Ça, c'est l'impureté. Ah non, justement. Seulement, Kadosh Baruch Hu, pour préserver le libre arbitre, il garde toujours cet équilibre entre le bien et le mal. Mais ce qui veut arriver, la conclusion à laquelle il veut arriver ici, c'est que même le mal est généré à chaque instant par un Kadosh Baruch Hu. Sauf que, il est généré, comme on a expliqué, en passant par plusieurs voiles. Et la Kabbalah donne un exemple très simple. Elle dit, il y a prinat panim, prinat achoreim. Je traduis. Il y a quand tu donnes quelque chose à quelqu'un de face, il y a quand tu donnes quelque chose à quelqu'un de dos. Très bien. Je donne un exemple. Imaginez par exemple que quelqu'un, votre femme par exemple, elle vous demande, passe-moi l'assiette. Vous lui donnez l'assiette. En lui donnant le visage, en lui donnant la face. Bon, là, ça veut dire que vous voulez lui donner la face. Vous voulez lui donner le visage, donc vous êtes avec elle. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous demande de lui donner un objet, et vous lui donnez comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais j'ai donné quand même.
Oui, mais à contre-cœur.
Mais, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai donné, mais je ne vais pas te parler. D'accord? J'ai donné, mais je ne vais pas te parler. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas de communiquer avec toi. Maintenant, écoutez bien. Quand maintenant, je me retourne, d'accord, et je donne l'assiette comme ça. Bon. Imaginez maintenant que celui qui est en face, il ne voit pas que c'est moi qui en train de le donner. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une main qui tend une assiette. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il y a une main qui m'a donné une assiette. Mais c'est pas Ben Yasouline. Par contre, quand je suis devant lui, je lui donne, il peut pas dire c'est pas moi. Ben, ça, c'est la différence entre la Kedusha et l'impureté. Dans la Kedusha, Dieu y donne en direct, d'accord? Dans l'impureté, Dieu y donne par l'arrière. Et c'est ça ce qui explique, c'est expliqué longuement dans Higueret à Teshuva, on va le développer un petit peu ici, c'est ce qui explique comment les Rechaim vivent, parce que tout le monde vit dans le monde, comment ils vivent les Rechaim. La différence est très simple, c'est que tous ceux qui vivent par le côté du bien, t'es obligé de plaire à la personne pour qu'il te donne. Je donne un exemple. Quand par exemple, je donne quelque chose à quelqu'un en pleine face, quand David, je te regarde pour te donner l'assiette, je te regarde, si tu me fais la tête, est-ce que je vais donner l'assiette?
Non.
Je te la donne pas. D'accord? Non, mais ça veut dire, je te regarde, ça veut dire que... Je vais donner l'assiette, ça va dépendre à ce que tu me regardes ou pas. Si tu me regardes, tu me fais la tête, dans ce cas-là, je te donne pas l'assiette. Ouais. Mais si de toutes les façons, l'assiette, je la donne comme ça.
Ben, je vais la récupérer, mais...
Tu passes la tête ou pas, tu vas la prendre, l'assiette.
Ouais.
C'est comme ça qu'il explique dans Higueret à Teshuva. C'est la raison pour laquelle on voit que ceux qui sont dans le côté du bien, ceux qui suivent le chemin de la Torah, quand ils se comportent bien, bah, au Hachem, à Kadosh Baruch Hu leur donne. Et quand ils se comportent mal, à Kadosh Baruch Hu, pour la moindre faute, tac, il leur coupe les vivres. Pourquoi tu leur coupes les vivres? Parce que comme à Kadosh Baruch Hu, il leur donne de face, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un de face, dès qu'il y a un problème, tout de suite, tu t'arrêtes. Tu dis, attends, il y a un blocage, qu'est-ce qui se passe? Et donc, à Kadosh Baruch Hu, il s'arrête. Mais par contre, ceux qui ont choisi d'être comme des Rechaim, à Kadosh Baruch Hu, il va leur donner. Mais il leur donne par derrière. Donc du coup, ils vont se servir, ils vont être très riches. Enfin bon, je suis pas en train de dire que pour être riche, il faut être rachat. Bien que riche, rachat, c'est un peu... Ça rime. Alors. D'accord? Mais... Très souvent, c'est ce qui arrive. Ça veut dire que lorsqu'une personne a décidé de ne pas passer par le chemin normal, il a décidé de passer par derrière, et ben du coup, il peut se servir quand il veut. Mais il n'aura pas la chance que Kadosh Baruch Hu lui a donné en direct. Je vais vous dire plus que ça. Le Zohar explique que le plus grand pourvoyeur du mal, c'est les Juifs. Pourquoi? Lorsqu'un Juif fait une Avera, chaque fois que je fais une Avera, ou qu'un Juif fait une Avera, il alimente les forces du mal. Un Juif. Plus que les autres. Vous imaginez que les forces du mal, lorsqu'elles voient un juif qui fait une avéra, hein, elles ont envie que ça continue le plus longtemps possible. Alors qu'est-ce qu'elles font les forces du mal? Elles vont bichonner ce juif. Du style, si avant quand il était religieux, il galérait grave, dès qu'il commence à faire d'avérotes, les forces du mal vont lui donner tout ce qu'il veut. Comme ça ils disent, on veut juste qu'il continue à faire des fautes parce que lui, il va nous donner, il est en train de nous donner notre parnassa. Parce que si tous les juifs du monde s'arrêtaient instantanément de faire des Averot, automatiquement, toutes les forces du mal cessent d'exister. D'accord ? Parce que les forces du mal reçoivent toujours par l'arrière, alors que les forces du bien reçoivent par l'avant. Chacun de nous, c'est à lui de décider comment il va communiquer avec Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu te donne de pleine face, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, il te le montre ? Ou est-ce que tu veux que Dieu te donne, le Zohar dit un terme très dur, comme un chien ? Ça veut dire un chien qui fasse la tête, qui fasse pas la tête, tu lui jettes son morceau, il va manger. Maintenant, tu n'as rien à faire à ce qu'il fait la tête ou pas la tête. Tu n'as strictement rien à faire. Tu lui prends, tu lui jettes comme ça. Maintenant, s'il le mange, s'il le mange pas, combien il a mangé, tu n'as strictement rien à faire. Ben, le Zohar dit, c'est la même chose. Quand toi, Kadosh Baruch Hu, il donne à manger au Rechaim, c'est comme quand on donne à manger un chien. Je vais vous dire plus que ça. Il y a un autre exemple aussi que le non, c'est pas qu'il donne plus. Non, c'est pas qu'il donne plus. C'est que le racham, ça va dépendre de son comportement. Je suis content que c'est comme ça. Au moins, j'ai un contact. Au moins, dès qu'il y a un problème, il s'arrête. Mais si toutes les façons que tu jettes, tu peux me donner des millions, mais Dieu me l'a pas donné. Dieu l'a passé par derrière, il me l'a pas donné personnellement. Ça n'a rien à voir. Le Zohar.
Oui, mais celui qui l'a pris, il s'en fout, hein. Ah ouais. Celui qui l'a pris, il s'en fout.
On veut recevoir avec bracha.
Oui, mais nous, parce qu'on est divis, mais sinon.
C'est une manifestation de la.
Non, j'ai pas dit ça. Attends, doucement. J'ai pas dit que ceux qui sont riches, c'est des Rechaïm. Très Shalom. C'est pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que très souvent, ce qui arrive, c'est que des gens qui n'étaient pas riches en étant des gens bien, ils deviennent des gens bons. Ils deviennent des gens pas bien. Et là, tout d'un coup, ils commencent à exploser. Tu dis, mais attends, comment c'est possible? Il y a une relation de cause à effet, là. Et ça, on en connaît tous. D'accord? C'est-à-dire, des gens, voilà, il y a un problème, c'est pas possible. La réponse est là. Parce que, il a changé de circuit. Avant, il était dans le circuit du bien. Et là, tu mérites, tu reçois, tu mérites pas, tu reçois pas. C'est-à-dire, tu recevras un compliment seulement si tu mérites. D'accord? Alors que l'autre, il est dans le chemin des Rechaim, dans lequel tu tiens ce que tu veux, mais de toute façon, tu ne le donnes pas. Je vais donner un autre exemple. C'est un exemple du Zohar. Je ne me serais pas permis de donner cet exemple-là. Le Zohar donne l'exemple suivant. Écoutez bien cet exemple. Pas du tout, monsieur Benita.
Il faut recevoir avec bracha. Je ne suis pas d'accord avec vous.
Monsieur Benita, est-ce que, monsieur Benita, si votre femme prépare un repas.
Donnez-moi autant de millions que vous voulez par le dos, je vais pas les refuser.
Si votre femme vous prépare un repas. Non, mais attendez, écoutez, monsieur Benita, écoutez cet exemple. Si votre femme vous prépare un repas et qu'elle vous le donne avec le sourire. D'accord? Et dans un autre jour, elle prend le repas, elle vous pose comme ça et elle s'en va. Même si c'est elle qui l'a préparé, ça dérange. Maintenant, je veux pas, monsieur Benita, il dira pas, de toute façon, je m'en fiche, j'ai bien mangé, je n'ai rien à faire de personne. Non, on passe pas comme ça. Sinon, c'est grave, quoi.
Bon, là c'était un repas, bon, je ne regarde pas, mais
bon. Ça peut arriver.
Bon, je vais donner un autre exemple.
Moi, je vais pas cracher dessus.
Je vais donner un autre exemple qu'amène le Zohar pour illustrer ça. Un exemple très connu, mais que c'est bon de répéter. Zohar, il dit comme ça. Il dit, imaginez la scène suivante. Imaginez, vous avez un roi qui a organisé un repas pour ses ministres. D'accord? Un roi qui a organisé un grand repas. Il a commandé les meilleures viandes, les meilleurs vins, les meilleurs... Enfin, un repas extraordinaire. Maintenant, il ne va pas commander petit. Quand il commande... Il commande 10 fois plus que ce qu'il a besoin. Donc, le roi, il a fait son repas. Bien sûr, il en est resté 10 fois plus. Il en est resté beaucoup. Qui c'est qui va manger les restes?
Hein?
Ceux qui n'étaient pas au repas. Donc, les employés, les serviteurs, ils vont faire les restes. D'accord. Maintenant, il y en a tellement que même les serviteurs, ils vont manger, mais après, ils n'en peuvent plus. Alors, à qui ils vont donner? Ils vont donner aux chiens. Et les chiens, ils vont manger, ils vont lécher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi nourrit les chiens.
Oui.
Ah oui, il a nourri les chiens, ouais, le roi. Départ, parce que si le roi n'avait pas fait le repas,
pas le but,
oui,
hein.
Oui, d'accord, vrai, mais... les chiens n'auront pas mangé.
Oui, mais ces chiens le protègent aussi. Hein.
Non, attendez. Dans l'exemple, ça n'est pas fini.
Ça marche pas. Dans l'exemple, continue, ça marche pas. Parce que dans
l'exemple. Attends, laisse-moi arriver au bout du raisonnement. Donc, finalement, le roi nourrit les chiens. Et donc, celui qui veut être démagogue, il peut dire, voilà, le roi nourrit les chiens. Ce qui est pas faux. Ce qui est vrai, le roi nourrit les chiens. Parce que c'est le roi qui a financé la viande, qui a nourri les chiens. C'est vrai. Sauf que, celui qui connaît la réalité, il sait que ça n'a rien à voir. Il sait que les ministres, le repas on leur a donné de pleine figure, ça veut dire que le ministre qui a embêté le roi, il n'était pas invité. Donc ça on leur a donné, s'ils étaient méritants, si celui qui n'était pas méritant, il n'était pas à la table, alors que les chiens, méritants, pas méritants, ils ont tous bien mangé. Donc la différence c'est quoi? C'est que les ministres, on leur a donné biprinat panim, on leur a donné de pleine face, d'accord? Les chiens, on leur a donné biprinat achoraim, on leur a donné par derrière. Pourtant, c'est le roi qui a payé tout le monde.
Mais d'accord. Alors le pauvre.
Alors la même manière, je reprends l'exemple, deux secondes. La même manière pour Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit tout le monde. Ça reste là. Seulement, la question est, comment ça se passe? Est-ce qu'il te donne directement ou est-ce qu'il te donne directement? Alors c'est vrai qu'il y a une faille dans l'exemple, c'est que normalement dans l'exemple, les chiens ils doivent récupérer les restes des tzadikim. C'est-à-dire normalement si on suit l'exemple, ce qui aurait dû se passer c'est que Dieu nous donne tout à nous, d'accord, aux gens qui se comportent bien, et après le reste que nous on laisse, ils va le donner au Rechaïm. Ça se passe pas comme ça. Mais vous avez compris que le but de l'exemple, c'est pour montrer qu'on peut nourrir quelqu'un tout en n'ayant strictement rien à faire de cette personne, et en ne sachant même pas qui je nourris, pourquoi je le nourris, comment je le nourris, parce que c'était pas mon but. D'accord? Ça, c'est l'exemple qu'on amène. Alors après, le Zohar, il va plus loin. Après, il amène les chiens, après, il y a les rats, après, il y a les fourmis. Parce que chacun, il récupère la dernière part du gâteau. Il y aura une part du gâteau pour tout le monde. Et je vais vous dire plus que ça. Il y a les excréments après. Ben oui, les excréments, ça sert aussi.
D'accord. Il y a toujours une catégorie. Il y a toujours une catégorie exclue. Dans le repas.
C'est pas une catégorie exclue. C'est que, il y a un circuit qui est le circuit direct. Et après, tout ce qui est indirect, tout ce qui est retombé.
Mais non, mais là, dans l'exemple que je donne, il y a une catégorie exclue, celui qui n'a pas été invité à la table. Celui qui n'a pas été invité à la table, ni il le prend dans la main, ni il le prend dans le dos.
Celui qui n'a pas été invité à la table, peut-être que les serviteurs iront lui amener à manger. C'est pas la question. Mais il a pas reçu en direct. C'est comme si par une personne va dire, quand on paye ses impôts, parce que tout le monde doit payer ses impôts, je suppose que vous avez dû recevoir déjà la feuille, d'accord? Donc, c'est comme si je vais vous dire, quand vous payez vos impôts, d'accord, vous financez l'État palestinien. C'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est de la démagogie de parler comme ça.
À hauteur de 400 millions.
Indirectement, je le fais. Mais c'est pas ce que je fais.
Oui, mais là, c'est un acte qui n'est pas fait par moi-même. C'est pas volontaire.
Ça change.
Il est fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui maîtrise l'art.
Pour moi, c'est la même chose. Encore une fois, il y a les actes directs, il y a les actes indirects. C'est ce qu'il veut expliquer ici. Donc, le circuit du bien, le circuit du mal, le circuit du bien est alimenté en mode panim. Panim en hébreu, ça veut dire la face. D'ailleurs, en passant, vous savez quelle est l'étymologie du mot panim? Panim, en hébreu, la face, ça vient de l'étymologie du mot pnim. Pnim, c'est l'intérieur. Quand tu vois le visage de quelqu'un, tu vois ce qu'il pense à l'intérieur. Misra d'apnim, ministère de l'intérieur. Panim, la face, l'intérieur. Quand tu vois le visage de quelqu'un, le visage est très expressif. Il y a beaucoup de gens qui sont expressifs. Quand tu vois quelqu'un de dos, t'as du mal à savoir ce qu'il pense. C'est très difficile à savoir ce qu'il pense. Bon, tu peux voir s'il est un peu courbé, s'il est un peu comme si. Mais quand tu vois une personne dans son visage, tout de suite tu vois s'il y a un problème. Le visage est ce qu'il y a de plus expressif. Les yeux, le visage, il n'y a pas mieux que le visage. Panim est égal à pnim. Donc quand on est dans le circuit du bien, Akadosh Baruch Hu nous donne en mode panim, ça veut dire qu'il me donne de pleine face. Quand on est dans le circuit du mal, Akadosh Baruch Hu nous donne lui toujours, lui brinat achoraim par derrière. C'est très important de comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Pour comprendre comment il n'y a rien qui échappe à Akadosh Baruch Hu. Et que même le chien a été nourri par Dieu. Tout le monde a été nourri par Akadosh Baruch Hu. Sauf que, il y en a qui sont passés par un circuit direct, il y en a qui sont passés par un circuit indirect. C'est tout. Ok? Alors on va continuer. Donnez-moi.
L'objectif c'est d'être nourri.
Non, pas du tout.
On s'en fout.
Mais non, pas du tout.
À partir du moment où
je Benita, c'est que vous êtes comme ceux qui disent que le but justifie les moyens. Ça n'existe pas dans la Torah, ça.
Peut-être, mais bon. Voilà, il dit que je l'ai nourri comme ça, L'objectif, c'est de manger, de ne pas mourir. Voilà, si je suis nourri comme ça ou comme ça, qu'est-ce que ça me fait?
Après, monsieur Benita, celui qui veut, libre à vous, si vous voulez, enfin vous, celui qui veut passer dans le circuit rachat, vous voulez gagner beaucoup d'argent?
Oui, je veux, bien sûr. Qui n'en veut? Non,
est-ce que vous voulez?
Qui ne veut pas gagner beaucoup d'argent?
Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Non, mais vraiment, beaucoup, beaucoup.
Mais qui ne veut pas gagner beaucoup d'argent? C'est ça?
Devenir un chat.
Qui ne veut pas gagner d'argent? Tout le monde veut gagner.
Et là, c'est une ségoula pour gagner beaucoup d'argent. Faut devenir un chat.
Mais c'est pas la seule solution.
Non, parce que.
Bien sûr, c'est Shalom.
Il y a beaucoup de Rechaïm qui n'ont pas d'argent, c'est pas vrai.
Justement, maintenant, qui vous dit que c'est des Rechaïm?
On le voit, il ne vit pas là.
Alors je vais vous dire, la Gemara pose la question. Elle dit, il y a Racha Vetovlo, Racha Veralo. Non mais c'est vrai.
On l'a vu ça déjà.
Bien sûr. Il y a des Rechaïm pour qui tout va bien, des Rechaïm pour qui tout va mal. La Gemara dit comme ça. Le Racha pour qui tout va bien, Dieu lui donne tout ce qu'il veut ici. Mais il va s'occuper de son camp en haut. Le Racha pour qui tout va mal, c'est parce qu'il a un mérite. Il y a des gens en haut qui pensent à lui. Il y a des parents ou des équipes qui pensent à lui. Et qui dit à Dieu, je t'en prie, ne lui donne pas la belle vie, comme ça au moins pousse-le à faire teshuva. Et c'est pour ça qu'il a la vie amère. C'est un sroute qu'il a d'avoir des galères dans sa vie. Bah oui, c'est un appel de bien sûr. Un rachat qui a des galères dans sa vie, c'est que vraiment c'est quelqu'un de bien.
Franchement, ça on connaît.
Voilà. Bon, Mipné. Alors, M. Vinita, on va avancer. Vous avez, M. Vinita, le quota est écoulé là. Alors, Mipné, on avance un peu dans le. Est-ce que... Mipné, parce que. Cheyini katam, vechayutam, eina biprinat panim, eina biprinat achorem. Voilà en deux mots ce qu'on a expliqué. Que les forces du mal ne tirent pas leur énergie en mode face, mais en mode arrière. Comme on a expliqué. Au pirou shachoraim, et qu'est-ce que ça veut dire donné par derrière? Qui est Adam anoten davar les sono. Comme quelqu'un qui donne quelque chose à son ennemi, chez l'obirsono, et que tu ne veux pas lui donner. D'accord? Seulement, comme indirectement tu dois lui donner. Ça veut dire que, imaginez par exemple que je dois faire quelque chose, et je sais que indirectement, j'ai un ennemi à moi qui va en profiter. Bon, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un, il a chaud, il a un ennemi avec lui dans la pièce, il va allumer la clim. D'accord? Il va allumer la clim, son ennemi va en profiter aussi. Mais est-ce que tu vas dire, ah, t'as vu, il a allumé la clim pour son ennemi? Non, il a pas allumé la clim pour son ennemi, il a allumé pour lui. Mais indirectement, son ennemi va en profiter. Mais c'est vraiment indirectement, ça l'intéresse pas. Donc, quand tu veux, tu dois donner quelque chose à quelqu'un, mais que tu ne veux pas lui donner, mais que tu dois lui donner, tu lui jettes derrière ton épaule. Qui m'a chazir panavimenu, parce que tu tournes ta face de lui, misin ato oto, tellement que tu le hais. D'accord? Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui tourne la face. Car les malas, pareil, chez Akadosh Baruch Hu. Prinat panim, qu'est-ce qu'on appelle prinat panim, la face d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est, ou pnimiyu taratson alion vechepso amiti. C'est ce qui exprime la profondeur de la volonté de Dieu, la vraie volonté de Dieu. Ça veut dire la raison principale pour laquelle il a créé le monde. Qui c'est qui se comporte pour la raison principale pour laquelle Dieu a créé le monde? C'est ceux qui se comportent du côté du bien. Les juifs ou pas, peu importe. Celui qui est du côté du bien, c'est une personne qui Dieu il lui donne et il lui donne de pleine face. Il lui dit, j'ai créé le monde pour des gens comme toi. Et je suis content que tu es là et je te donne parce que je suis content que tu es là, j'ai créé le monde pour des gens comme toi. Maintenant, indirectement, puisqu'il y a un monde qui a été créé, donc forcément, il y a d'autres personnes qui vont profiter. Ces autres personnes-là, ça peut être des figurants. Vous savez, on donne souvent l'exemple aussi dans la Chassidout, l'exemple entre les acteurs et les figurants. Alors, on prend pas l'exemple d'un film, je vais vous donner l'exemple d'un film. Quand vous avez un film, d'accord, vous avez par exemple un ou deux acteurs, et en arrière-plan, il y a combien de figurants? Il peut en avoir des fois des centaines. Bon, si un figurant fait une grimace, est-ce que c'est grave?
Non.
Il faut vraiment qu'il fasse le mariole pour qu'on le mette dehors. Ouais. Du plateau, ou je sais pas comment on appelle ça.
Coupé.
D'accord? Par contre, l'acteur, la moindre petite erreur qu'il fait, qu'est-ce qu'on dit?
Coupé.
On va recommencer. Quelle est la différence? Pourtant, est-ce que ça veut dire que le figurant n'est pas un homme? Le figurant est un homme comme l'acteur. Mais la différence, c'est que l'acteur est l'intéressé principal. Donc quand l'acteur y a un problème, tout de suite on l'arrête. On dit, il y a un problème. Maintenant, le figurant, s'il est là, il est en train d'écrire un texto, je sais pas ce qu'il est en train de faire, on le verra pas, on lui dira rien du tout. Parce que de toutes les façons, c'est un figurant. Bah, comprenez que c'est la même chose. Il faut imaginer les réchaïms et les forces du mal comme des figurants. Qui doivent être là. On va expliquer plus tard dans la suite du cours pourquoi ils doivent être là. Pourquoi Dieu a été obligé de les créer. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est Dieu qui les nourrit, c'est Dieu qui les paye, c'est Dieu qui les nourrit, c'est Dieu qui les fait vivre, ça ne change pas qu'ils n'expriment pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne leur donne pas de pleine face comme pour dire je veux vous donner. Celui qui se comporte du côté de la Kedusha, Dieu, il lui donne directement de pleine face comme si qu'il voulait lui donner. On carre les mâles. Il en est de même en haut. Je ne sais pas si vous avez dans les mots. Voici un peu dans les mots. J'accélère parce que j'ai expliqué beaucoup à l'oral déjà.
En bas.
275 en bas. Car il en est de même, les mâles en haut. Chez Akadosh Baruch Hu. Prinat panim. Quand on dit que Dieu nous donne de pleine face, comme c'est écrit Issa, Hashem, Panav et Lecha. La birkat kohanim, vous savez, chaque mot de la birkat kohanim est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a la birkat kohanim? On dit Issa, Hashem, Panav et Lecha, que Dieu tourne sa face vers toi. Rashi explique, c'est-à-dire que Dieu te prenne en grâce. Prends en plein le terme la face, maintenant on comprend. Parce que, on dit, Dieu, tu nous donnes la parasite de toutes les façons, ça on le sait. C'est pas ça ce que je veux. Je te demande que tu me donnes de bon cœur. Et que tu me dises à Kadosh Baruch Hu, que tu as créé le monde pour des gens comme moi. C'est ce que je veux entendre. Donc, car les ma'ala prinat panim ou punimiyut aratson aelion vechevso amiti. Quand on dit que Dieu donne quelque chose à quelqu'un en mode face, ça veut dire que ça exprime la vraie volonté de Dieu. Que cette personne-là, il se comporte comme Dieu voulait. C'est comme le ministre. C'est-à-dire que Dieu lui donne directement. Il lui dit, je te donne, je veux te donner, et je suis content que tu aies fait, et c'est moi qui vais te donner personnellement. Asher hafetz Hashem, que Dieu désire. Le hashpia chayut, Dieu veut donner chayut, de l'énergie, de la vitalité, tout ce qui est nécessaire, les chol akarovelav, pour tout celui qui lui est proche, misitra dikdusha, qui se trouve dans le côté de la kedusha. Aval, mais, asitra hara veatum. Maintenant, de l'autre côté, les forces du mal, l'impureté. Ito avat Hashem asherseni. Ça, c'est une abomination que Dieu est. Alors si Dieu il est, alors dans ce cas-là, comment ils vivent? Quand Dieu il leur donne de l'énergie, il leur donne pas de l'énergie de manière directe. Il leur donne de manière indirecte, qui im seulement, keman deshadé batar katfoy, comme celui qui va jeter, d'accord, donc derrière ses épaules, comme on a dit, les sono à son ennemi, chez lo birtsono, alors qu'il ne voulait pas lui donner. Ça s'explique beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, l'âme Israël, on est comparé aux enfants d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque votre enfant, il se comporte mal, est-ce que vous lui donnez un cadeau? Vous allez le punir. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Parce que vous lui donnez la face. Et quand tu donnes la face à quelqu'un, dès qu'il y a un problème, tu l'arrêtes tout de suite. Mais quand c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire, tu lui donnes, tu n'en as rien à faire. Je lui dis, vas-y, prends, va-t'en. Ça veut dire, le fait de ne pas donner à quelqu'un qui n'est pas méritant, c'est un mérite extraordinaire qu'on a. Parce que ça nous permet, par rapport à ça, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ça c'est un point très important qui ne développe pas ici. Aujourd'hui, on est en exil. On n'est pas à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, on arrivait à avoir la relation de cause à effet, mais qui était vraiment en direct. Ça veut dire, une personne, il faisait des mitzvot, tout de suite, Dieu lui a envoyé. Il a envoyé, Baruch HaShem, des bonnes choses. Il commençait à faire une petite avéra, pas, qui prend sur la tête. Il était rachat, tout de suite, il prenait. Il y avait une relation de cause à effet qui était très claire. Exactement comme ce qui est écrit dans le schéma. Qu'est-ce que dit Dieu? Vehaya im shamoa tishmoa mitzvotai. Hein, qu'est-ce qu'il dit Serge? Si, Dieu, il dit, si vous allez écouter mes mitzvot, alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je vais vous donner la récolte dans vos champs, je vais vous donner la parnassa. Relation de cause à effet. Est-ce qu'aujourd'hui on voit cette relation de cause à effet? Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui on voit que quand j'ai fait une mitzvah, Dieu m'envoie la récompense tout de suite? Je le vois pas. Mais il faut savoir que ça, c'est parce qu'on est en exil. Et une des choses qu'il y a dans l'exil, c'est qu'en exil, alors justement, en exil, d'accord, on ne voit pas directement la relation de cause à effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était à l'époque du Beth Amikdash, les choses que Dieu a dit, ça se passait. Quand c'est écrit dans le schéma, Dieu dit, si vous écoutez mes mitzvot, je vais donner la récolte de vos champs en son temps. Ça veut dire qu'à l'époque, lorsque la pluie ne tombait pas, les gens, ils faisaient teshuva. Ils savaient que si la pluie n'est pas tombée, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. Bien sûr qu'on va faire teshuva, etc. Mais on n'est pas à ce niveau-là de dire tout de suite, bon, c'est bon, Dieu, on a compris, hein, on a compris l'appel de phare, t'inquiète pas, on se range, et après, on voit la pluie. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à voir les choses comme ça, parce que Dieu ne nous montre pas comme ça. On est en exil. Mais à l'époque du Beth Amikdash, et Be'ezrat Hashem aussi, lorsque ma chère viendra, ce sera comme ça. Exactement comme un père et son fils. Ça veut dire, le fils comporte bien, le père récompense tout de suite. Le fils comporte mal, tout de suite, le père il reprend. Et le fils, par rapport à la réaction de son père, il sait exactement ce que son père pense. Au moins c'est simple, au moins c'est clair. Comme ça il sait, ça c'était bon, ça c'était pas bon, là j'ai fait plaisir, là j'ai pas fait plaisir. Mais quand c'est comme un chien que tu jettes, bah le fils il a aucune idée s'il a fait plaisir à son père ou pas. Ça c'est la différence qu'il y a ici entre les forces du bien et les forces du mal. Les forces du bien, c'est direct. Les forces du mal, c'est indirect. Maintenant, il nous reste juste une question. Après, je m'arrête pour vos questions. C'est la question qu'on va développer à la fin du chapitre. Qui est, pourquoi Dieu était obligé de créer le mal? Pourquoi Dieu n'aurait pas pu faire plus simple? Faire qu'il y a un monde dans lequel il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont très bons, et des gens qui sont excellents. Pourquoi il était obligé de créer le mal? Même si on devait créer des variations, pas de problème. On peut créer des variations. Bon, il y a des gens moyens, des gens bien, des gens excellents, des gens sublimes ici. Mais pourquoi il était obligé de créer le mal? On a expliqué que même le mal, il vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il le jette par derrière. D'accord. Mais pourquoi il le jette par derrière? Parce qu'il doit lui donner.
Il l'a pas créé, il s'est auto-créé.
Oui, mais là, ce qu'on a expliqué, c'est pour ça qu'il a pris un exemple très important. Il a dit que c'est comme quand tu jettes quelque chose à ton ennemi par derrière, parce que tu dois lui donner. Mais tu veux pas lui donner. Mais tu dois lui donner. En d'autres termes, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Dieu devait créer le mal? Parce qu'apparemment, c'est pas seulement une résultante, que Dieu, il s'est contracté jusqu'à ce qu'il y ait le mal qui a été créé. Apparemment, il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu de se contracter tellement jusqu'à ce que le mal existe. Est-ce que le mal devait exister dans le monde?
Pour faire ressortir le bien.
Pourquoi? Vous pensez vraiment que le bien peut pas ressortir?
Si tout le monde y fait du bien, alors il y aura pas de différence. C'est le mal qui fait voir qu'il y a du bien. Alors, c'est parce qu'on a fait le mal qu'on voit que l'autre il a fait du bien.
Il faut des infractions d'après vous?
Ah ben oui, la preuve. Alors quelle est la différence? Pourquoi ? Comment,
c'est pour
comment distinguer l'un par rapport à l'autre ?
C'est par
le mal que je distingue l'autre qui a fait le bien.
Bon, on va voir, on va développer. Il y a une autre piste qui va développer ici.
On peut distinguer le bien du bien.
Exactement. On aurait pu distinguer le bien du bien. D'accord ? C'est comme, je vous donne un exemple. Une fois, quelqu'un qui a posé la question au rabbi, il a dit, est-ce qu'un tzaddik peut se tromper ?
Bien sûr.
Alors le rabbi dit, oui, bien sûr, c'est une question. Il dit, mais pourquoi vous posez la question ? Il dit, parce que j'ai vu, le bonhomme, il répond au rabbi, il dit, parce que j'ai vu que vous avez un crayon, et dans ce crayon, il y a une gomme. S'il y a une gomme, ça veut dire que, il y a des choses que vous effacez. Alors le rabbi lui dit, non, vous n'avez pas compris le rôle de la gomme. Le rôle de la gomme, c'est pas pour effacer, et c'est pas pour effacer quelque chose qui n'était pas bien. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? J'ai écrit quelque chose qui était peut-être bien. Mais après, je réfléchis et j'ai trouvé quelque chose qui est encore mieux. Donc j'efface, mais pas parce que ce qui était avant, c'est pas bien. Parce que j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Donc je reprends ma question. Est-ce que la création du mal était obligatoire ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un monde sans mal ?
Parce que c'est ce que j'ai effacé.
Pourquoi ?
Peut avoir été faux aussi.
Oui, mais...
Voilà, bon, vous avez... pas simplement, je vais améliorer le bien par un autre bien encore mieux.
Donc on aurait pu dire...
Ce n'est pas la seule raison.
Parce qu'on aurait pu créer bien, encore mieux, d'accord ? Mais pourquoi le mal devait créer ? C'est la question qui nous reste. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à part ça, par rapport à ce qu'on a expliqué jusqu'ici ?
Oui, tout à l'heure tu as dit qu'y compris les non-juifs, donc, pouvaient être gérés de la même manière.
Du bon côté.
Voilà.
Attendez, juste une petite réserve que j'ai mis tout de suite. Même les non-juifs. Ils peuvent passer, comme on a expliqué, par le côté
en direct ou
d'accord
par derrière.
Même les non-juifs peuvent passer, comme on a dit, par le côté. Gemara a dit comme ça. Gemara a dit que nous, les juifs, on est jugés chaque année. Et pas seulement chaque année, chaque jour. Ça veut dire que Dieu, il nous juge au début de l'année sur la masse qu'on doit recevoir pendant l'année. Et après, au jour le jour, il nous juge, est-ce qu'aujourd'hui tu vas recevoir la somme qu'on a prévue pour toi? C'est-à-dire, on est jugé tous les jours. Et pas seulement tous les jours, à chaque fila qu'on fait, shacharit mitra arvit. Mais, la Gemara dit que les goïms, ils sont pas forcément jugés tous les jours. Peut-être même pas tous les ans. Elle dit qu'il y a certains cas dans lesquels ils sont jugés toutes les dizaines d'années. Tous les 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire que tous les 20, 30 ans, à Kadosh Baruch Hu, il réévalue le contrat, il dit bon, ceux-là, bon, les Français, les Éthiopiens, les trucs, etc., bon, allez, on ajuste un peu. Pourquoi ? On a la réponse ici. Parce que, comme les Bnei Israël, les Juifs, c'est la crème, d'accord ? Comme c'est le contrat principal, tu le révises tous les jours. Tous les jours, tu l'ouvres.
C'est pas toujours la crème, en fait.
D'accord ?
La
crème, ça veut dire, c'est l'acteur principal.
C'est l'acteur principal.
Donc l'acteur principal, tous les jeux sont arrivés pour lui.
Qu'on est les meilleurs,
et que tu sois au début du film, au milieu du film, à la fin du film, l'acteur principal, on ne le lâche pas. C'est comme ça.
C'est l'objet du contrat. C'est pas
on n'a pas le choix.
C'est l'objet du contrat.
Mais vous savez, monsieur Benita...
Il y a le but du livre. Il y a un but, il y a un sujet dans le livre.
Encore plus que c'est une chance, c'est une responsabilité. Il faut le savoir, ça.
Ce n'est pas qu'une...
Non, c'est une responsabilité. Voilà, donc ça, c'était pour la petite réserve.
C'est par rapport à la responsabilité.
On est responsable pour les autres. On est acteurs. Nous sommes les acteurs.
Après tous les autres, quand on est boss, c'est pas pour plaisir, on est boss, on a des responsabilités.
Monsieur Bechavod, d'accord. Vous avez une autre question ?
On peut dire ça, mais ce qui compte, c'est qu'on
monte. Attendez, monsieur Benita, juste un
second. Quand vous dites que Dieu, il donne la force au mal, mais de dos.
Oui.
Mais quand par exemple, le Hitler, la Shoah, tout ça,
oui.
C'est à chaque moment que Dieu lui permet de vivre.
Vous avez raison.
Donc ça veut dire qu'il ne vient pas vraiment de dos à n'importe quel moment, ou même pas quand il fait du mal à un autre juif, quand on a un juif qui a du mal. Hachem, il le décide sur le moment, ça. C'est pas de dos qui donne cette force de faire du mal.
D'accord, mais...
C'est voulu.
Celui qui a fait le mal,
ouais.
Au moment où il a fait le mal, on est bien d'accord que c'est Dieu qui lui donne cette énergie.
Ouais.
Parce qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Ok ouais. Alors comment tu peux dire que Dieu a donné une énergie à quelqu'un, une énergie mauvaise ? Est-ce que Dieu a donné une énergie mauvaise à quelqu'un ?
Bien sûr.
Non, ça c'est la réponse qu'on a. C'est que Dieu n'a pas donné d'énergie mauvaise. Il y a des gens à qui il leur donne une énergie seulement s'ils sont bien. Et il y a des gens à qui il donne l'énergie de toutes les façons. Mais ils sont tellement loin qu'ils font ce qu'ils veulent de l'énergie. Mais la question pour répondre à ta question, il faut passer à la question suivante. La question suivante qui était, pourquoi Dieu devait créer le mal ? C'est-à-dire pourquoi il y a des éléments dans le monde qui doivent... Peut-être que on a dit qu'ils échappent pas à Dieu, mais en tout cas, en apparence, ils échappent très clairement à Dieu. En tout cas, ils échappent à son plan. Ils échappent à son plan, je veux dire. Dieu ne veut pas le mal dans le monde. Donc il y a des choses qui échappent au plan de Dieu. Pourquoi Dieu a créé des choses qui échappent à son plan ? Pourquoi ?
Ça échappe.
Non, mais ça n'échappe pas.
Ça échappe pas.
En tout cas, en apparence, ça échappe à son plan. Ça suit pas sa logique.
Pardon, mais
non, non, c'est pour que ce soit. Il s'adapte pour que nous, on puisse comprendre et comment modifier le comportement pour rebasculer définitivement vers.
Oui, mais ça ne justifie pas la création du mal.
C'est pas, mais si non, c'est par rapport à la tchouva.
Ça ne justifie pas la création du mal.
La création de la tchouva.
Mais ça ne justifie pas la création du mal. Ça justifie la création de variantes, d'accord, d'embûches, etc. Mais ça justifie pas la création du mal. Vous savez, il y a du mal absolu dans le monde. Il y a du mal absolu, du mal.
Oui, non, mais
là, pourquoi il a été créé?
Parce qu'il y a des gens qui jamais pourront faire tchouva.
Est-ce qu'il y a du bien? Est-ce qu'il y a du bien dans ce que Hitler a fait?
Non.
Non, d'accord, il n'y a pas de bien. C'est du mal absolu, ça.
C'est du mal absolu, économiquement.
C'est pas une punition. Si encore vous avez par exemple une punition, mais qu'on le mette en prison et la peine de mort. Je dis bon, ça on peut discuter. On aurait pu le punir, on a fait la peine de mort, mais il y a au moins il y avait du bien dedans. Mais là, ça n'a rien à voir. Il y a des situations dans lesquelles c'est du mal absolu. C'est le mal pour le mal. Tu dis, mais je comprends pas, qui c'est qui génère ça? C'est Dieu? Pourquoi il génère tout ça? Pourquoi il fait ça? Tu dis, oui, mais c'est pas direct, c'est indirect. Mais direct ou indirect, j'en ai rien à faire. Qui est le patron ici? Si Dieu c'est le patron, pourquoi il a des choses comme ça? Pourquoi il génère des choses comme ça?
Aussi longtemps.
Et c'est pas seulement aussi longtemps, c'est lui qui les génère, c'est lui qui les crée. Comment c'est possible?
C'est généré un instant ou une seconde. C'est pas grave. Ça peut être.
Là, une seconde, ça peut.
Ah oui.
Mon atomique.
Ouais.
C'est vrai.
Mendy, est-ce qu'on peut définir le mal comme étant du bien dilué?
Alors, est-ce qu'on peut définir le mal comme étant du bien dilué?
Sur l'individu qui a pris.
Non, je vais expliquer. Je comprends ta question. En fait, il faut imaginer comme ça. Il y a le bien absolu et le mal absolu. Le bien absolu, c'est ce qui est uniquement pour Dieu. Le mal absolu, c'est ce qui est exclusivement pour autre chose que Dieu. Et il y a la réalité qui est un peu entre les deux.
Voilà.
Donc ça veut dire qu'après, c'est les pourcentages. C'est-à-dire chaque acte qu'on va faire, c'est difficile de catégoriser, de lui dire bien absolu, mal absolu.
C'est ça, on est entre gris clair et gris clair.
Voilà, c'est compliqué. Mais, en tout cas, ce qui est clair, c'est que le mal absolu existe, ça c'est sûr. Et c'est Dieu qui le génère. Pourquoi il le génère? Oui.
Est-ce que quand on est neutre, c'est-à-dire sans bien, sans mal de base?
Ah oui, bien sûr.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, comment moi je vois la chose, après je sais pas si c'est bien.
Attendez, d'abord, je vais juste répondre à la question. Quand on est bien, ça veut dire que... on n'est pas mauvais.
J'explique. Avec un potentiel.
J'explique ce que je veux dire. On peut avoir par exemple quelqu'un qui naît sauvage, parce que c'est écrit que l'homme naît sauvage. Mais sauvage, c'est pas mauvais. Sauvage, ça veut dire qu'il a un aspect animal, ça veut dire qu'il est coléreux, qu'il est nerveux. Quelqu'un qui est né depuis le ventre de sa mère, il était nerveux. Sa mère lui dit, toi dans le ventre, t'as pas arrêté de bouger. C'est pas faux. On sait qu'il a pas arrêté de bouger. Mais est-ce que c'est mauvais ça? C'est pas mauvais. La question est, qu'est-ce qu'il va faire de son caractère? Est-ce qu'il va bien l'utiliser? Est-ce qu'il va mal l'utiliser? Est-ce que, par exemple, le caractère du sang qu'il a, est-ce qu'il va l'utiliser pour tuer des gens, pour faire la shrita, pour bezrat Hashem, pour être shochet, pour être moël? C'est-à-dire, c'est un caractère qu'une personne va avoir, après, il en fait ce qu'il veut. Donc, c'est vrai que quand on est vierge, ça, c'est sûr.
Mais alors là, c'est-à-dire que, en fait, Hashem nous donne la force, l'énergie. Oui. Ensuite, c'est notre libre arbitre, c'est-à-dire, c'est nous qui décidons soit de faire le bien, et là, c'est les mitzvot pour nous.
Très bien.
Soit on décide de faire le mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui avons décidé. C'est pas Hachem qui nous donne le mal. C'est-à-dire que c'est nous qui nous donnons le mal par l'énergie qu'Hachem nous a donnée.
Bonne question. Donc, très bon point.
On crée nous-mêmes nos propres esprits mauvais, si je peux dire, en faisant par exemple une avéra. Je crée un esprit mauvais.
Alors, c'est un très bon point.
Qui vient ensuite m'alimenter, mais c'est de ma faute, de mon libre arbitre que j'ai choisi.
Très bien. Donc, ça veut dire, je vais prendre votre question dans un autre sens, parce que ça va être la clé de la réponse. La clé de la réponse, non, mais c'est ça la clé de la réponse. La clé de la réponse, c'est que, il y aura plusieurs raisons. Mais déjà, la raison number one, pourquoi Dieu a créé le mal, c'est pour créer la notion de libre-arbitre. Pour créer la notion de libre-arbitre, pour que je sois conscient que je peux construire et détruire. Et que dans les deux cas, je peux le faire. Maintenant, pour arriver à ça, Dieu a été obligé de se mettre dans une situation dans laquelle il te laisse faire ce que tu veux. Je vais vous donner un exemple. C'est comme par exemple un père qui donne de l'argent à son fils. Et il lui dit, avec cet argent, tu fais ce que tu veux. Maintenant, dans la pratique, qui c'est qui nourrit? Qui c'est qui donne cet argent? C'est le père. Maintenant, avec cet argent, le fils, il peut faire des mitzvot. Avec cet argent, il peut aller faire des bêtises. Et dans les deux cas, qui c'est qui lui a donné l'argent? C'est le père. Le père, maintenant, la particularité avec Akadosh Baruch Hu, c'est que Dieu, en vérité, ne peut pas ne pas être là. Il est toujours là. Mais il va faire comme si qu'il n'est pas là. Il va se cacher pour que la personne a le sentiment qu'il fait ce qu'il veut, dans le sens que c'est lui qui décide de est-ce qu'il va faire le bien ou le mal. Et là, quand il aura le libre arbitre, là on pourra dire que le choix qu'il a fait était un choix positif ou un choix négatif. Donc c'était un très bon point de lier ça au libre arbitre, parce que ça c'est la raison numéro un. Pourquoi Dieu a créé le mal? La raison numéro un pour laquelle Dieu a créé les gens, donc le mal dans le monde, ça va un peu dans le sens que M. Benita vous avait dit. Dieu a créé le mal dans le monde, pas pour qu'on puisse apprécier le bien, un peu plus que ça. Il a créé le mal pour qu'on puisse choisir le bien. Parce que sinon ça serait pas un choix. Si le bien était évident et que tu peux faire que du bien, il n'y a pas de choix, c'est évident, on est programmé. Pourquoi Dieu a créé le mal pour que le mal peut être une option qui est viable. Ça veut dire que le mal comme le bien, les deux doivent être des options parfaitement viables, parce que sinon c'est pas un choix. Pour qu'il soit un choix, les deux chemins doivent se tenir parfaitement. Ça veut dire que tu sois tzadik ou que tu sois rachat, dans les deux cas tu dois bien vivre. Alors tzadik, tu seras bien dans ta tête, d'accord? Rachat, tu seras bien, je sais pas, dans ta peau ou dans ce que tu veux, mais il faut que dans les deux cas ça fonctionne. Il faut que dans les deux cas ça fonctionne. Donc voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu se cache. Et que un il donne devant, l'autre il donne derrière, certes, ça c'est la réalité, mais les deux fonctionnent. Ça veut dire qu'on peut être rachat et vivre longtemps. C'est la réalité. Oui. On peut être rachat, même vivre peut-être plus longtemps que le tzadik. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pourquoi? Parce qu'il fallait que les deux chemins soient parfaitement équitables. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut que les deux chemins soient parfaitement équitables. On en avait parlé, ça fait quelques semaines de ça. On avait dit que pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut que les deux soient parfaitement équitables. Je vous donne un exemple. C'est écrit que la Torah te dit, je te donnerai la vie et la mort, et tu choisiras la vie. C'est pas un choix, ça. C'est évident. Si par exemple, voilà, je te donne un exemple. Voilà, Samuel. Badoua, Coca. Qu'est-ce que tu choisis?
Badoua.
Badoua. Il n'y a pas de sucre. Donc c'est pas un choix, ça. C'est conditionné. Jamais t'aurais choisi la Badoua.
Personnellement, oui.
C'est-à-dire, t'avais le Coca, pardon. T'avais pas dans ta tête un seul instant, tu voulais pas choisir le Coca. C'est pas tu t'es dit, bon, ça ou ça. Direct, t'étais conditionné. C'est-à-dire, pour toi, ça c'est les excréments. Et ça, c'est Rolla Maba. D'accord? Donc y a pas de choix. Pour que ce soit un choix, normal, vous avez deux bouteilles de Badoua. Et encore, c'est pas bon parce que là aussi, il est conditionné. Faut que je te mette deux bouteilles de Badoua. Laquelle tu vas choisir? Hein? Non, mais laquelle tu choisis là? Laquelle tu choisis entre les deux? Celle-là. Donc t'étais encore conditionné.
Ouais.
Pour faire un vrai choix, il me faut deux bouteilles. Je n'ai plus.
Non, j'ai mis deux bouteilles vides et il
a choisi. Non. Il faut deux bouteilles pleines.
Deux bouteilles vides.
Et encore. Tiens, voilà. Je vais te dire, même là, t'es conditionné. Pourquoi t'es conditionné? Parce que peut-être t'es droitier, peut-être t'es gaucher. Si t'es droitier, t'es attiré vers ce qui est à droite. Si t'es gaucher, t'es attiré vers ce qui est à gauche. On est tout le temps conditionné. Pour faire un vrai choix, il faut que les deux soient parfaitement pareils. Et que les deux tiennent la route parfaitement la même chose. Ça, c'est le bien et le mal. Le bien et le mal, les deux tiennent parfaitement la route. Et c'est ça ce que Dieu te dit. Dieu te dit, sache que les deux chemins fonctionnent à l'identique. Ils fonctionnent parfaitement. Et qu'une personne peut faire sa vie du début jusqu'à la fin comme un rachat. Il peut faire sa vie du début jusqu'à la fin comme un tzadik. Et dans les deux cas, il vivra. Il vivra, il se débrouillera, il vivra. Seulement, celui qui l'a fait comme un tzaddik, quand il va arriver en haut, on lui dira, bravo, tu as choisi d'être tzaddik. Tu aurais pu choisir le contraire. Celui qui a choisi d'être rachat, on lui dit, malheur à toi d'avoir choisi d'être rachat, tu aurais dû choisir d'être tzaddik.
Ça va, voilà. Il va c'est aller où, la vache. Mais, non, mais pourquoi ça laisse pas l'histoire?
Il prend une femme méchante, il va à l'avant.
Non, pourquoi il laisse perdurer le mal absolu? C'est ça que...
Non, c'est pas qu'il laisse perdurer le mal absolu. Hein, encore une fois. C'est que. Oui.
33-45, c'est 12 ans ininterrompus, crescendo, chaque année, une année plus que l'autre, contre les Juifs.
Oui.
12 ans. C'est pas un jour. C'est pas
bon, d'abord,
à l'échelle d'Akadosh Baruch Hu,
ne cherche pas de raison à la choix. La choix ne s'explique pas.
Pourquoi la choix?
Non.
Attends,
je ne sais pas si un jour on la comprendra.
Non, je ne parle pas de la raison à la choix. Si tu allais me donner une raison pour la choix, je ne t'aurais pas cru. Maintenant, la question que je te pose, c'est dans le principe que tu établis, enfin que le Tanya établit, il parle du mal et il dit le mal absolu. C'est quoi la différence entre le mal et le mal absolu?
D'accord.
C'est ça la question.
Ouais. La différence entre le, c'est la question de Dan. La question entre le mal et le mal absolu, c'est jusqu'où est ma kavana quand je fais le mal? Est-ce que ma kavana est que je lâche complètement Dieu et je me bats contre Dieu? D'accord? Ou est-ce que ma kavana est que bon, je me suis laissé aller, j'ai fait un kiff? Voilà, il s'est laissé aller, il a fait un kiff. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Dans la halakha, c'est pas la même chose.
Ah oui,
tu as Moumar l'était avod, Moumar l'est achis. Le vrai rachat, celui qui veut énerver Dieu, etc., ça c'est all the way, ça c'est le rachat complet, le rachat absolu. Maintenant, tu as des gens qui sont rachats, mais parce que c'est par plaisir qu'ils sont rachats. C'est-à-dire qu'à la limite, si le bien avait été aussi kiffant que le mal, il aurait fait le bien. Mais bon, malade, qu'est-ce qu'on va faire? Le goût de l'interdit, tu ne trouves pas dans le bien. C'est comme ça. Alors bon, il va voter.
Mendy, une question. Donc, dès le départ, quand Hachem a dit à Adam Arishon et à Ava, il a dit, de cet arbre-là, tu ne toucheras pas.
Ouais.
Donc, il les a conditionnés vers le mauvais chemin, puisque ils ont fauté, et puis après, il y a eu toutes les conséquences qu'on a eues. Donc, dès ce moment-là, il avait déjà déclenché la création du libre-arbitre.
D'accord. Il les a conditionnés dans le sens que les deux choix étaient bons. C'est-à-dire que Adam Arishon, attendez, écoutez bien. Adam Arishon, il avait deux choix devant lui. Au moment où il a choisi, il pouvait choisir le bien comme le mal, et les deux tenaient la route.
Mais il pouvait plus.
Non, sûr qu'il pouvait.
Que le bien, non,
parce que celle qui lui a tendu.
Vous connaissez l'histoire. Il y avait l'arbre de la connaissance. D'accord. C'est quoi Etz Hadaat? C'est quoi l'arbre de la connaissance? Parce que Etz Hadaat Tov Vara, c'est l'arbre de la connaissance qui te permet de savoir le bien et le mal.
Oui, donc il connaît.
Ça veut dire quoi? Attendez. Écoutez bien ce que je veux dire. Très important. Ça veut dire que tant que Adam Arishon n'a pas goûté aux fruits défendus, il n'avait pas réellement de libre arbitre. Écoutez bien ce que je veux dire.
Oui.
Dieu l'a poussé à fauter.
Eh ben, c'est ce que je dis.
Très bien.
Il a conditionné.
Attendez. Une fois qu'il a conditionné, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il leur a dit, le jour où tu vas manger ce fruit, tu connaîtras le bien et le mal. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas mangé ce fruit, il ne connaît pas le mal.
Attendez.
Laissez-moi arriver. Tant qu'il n'a pas mangé ce fruit, il ne connaît pas le mal. Donc s'il ne connaît pas le mal, il n'a pas de libre arbitre. Ça veut dire que Adam Arishon, tant qu'il n'a pas goûté le fruit, il n'a pas de libre arbitre. Dieu l'a poussé à la faute. Et ça, David Amelach, il le dit très clairement dans Tehilim. Dans le psaume 66, si mes souvenirs sont bons, il dit Nora Alila al Bene Adam. Il dit que Dieu, tu as fait un complot sur Adam Arishon. C'est un complot ce que tu as fait.
Comment?
C'est un complot. Quel Nora Alila, ça vous dit quelque chose? Dans la Nila, c'est ce qu'on dit à Dieu. On dit Dieu, c'est un complot à la base. Maintenant, une fois qu'on a pris le. Parce que, imaginez, d'accord, ici Adam Arishon, il n'avait pas mangé le fruit défendu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui?
On serait tous nickel.
D'accord? On serait tous nickel. Il n'y aurait pas eu de. Bah, automatiquement, qu'est-ce qu'il y aurait? Il n'y aurait pas eu de notion de mort, pas une notion de machiar, pas une notion de récompense. Tout ça, ça n'existe pas. C'est pas intéressant.
Donc, c'était prévu que.
C'est sûr. Dieu, il avait écrit le programme dans la Torah, il savait. C'est sûr, ça allait arriver. Seulement, une fois que Akadosh Baruch Hu, alors c'est vrai, certes.
C'est une préface à la Rabbi Marichon.
Alors, quelque part, oui. Non, pas. Attention. La faute défendue. La faute du fruit défendu.
Non, mais jusqu'à la croque.
Oui, quelque part, oui. Oui, oui.
C'est une préface.
Il avait une sorte de libre arbitre, mais c'est pas le libre arbitre qu'il a connu après. Dieu lui a dit. Il a dit, quand tu vas manger le fruit, tu connaîtras le bien et le mal. Maintenant, il connaît le bien et le mal. Maintenant, il peut avoir un vrai libre arbitre.
C'est pas Dieu qui lui a dit ça.
Dieu lui a dit. Non. Dieu.
C'est bon, il a dit, tu connaîtras le bien et le mal.
Non, Dieu lui a dit.
Tu pourras arriver au niveau.
Dieu, il a dit, ne toucherai
pas. Parce que lui connaît le bien et le mal, et toi, tu le connais pas.
Oui.
Mais tu seras au niveau.
Mais.
Quand tu connais.
Dieu a dit, ne touchez pas à l'arbre.
Bien le mal.
Dieu a dit, ne touchez pas à l'arbre. Après, le serpent, il a dit, si vous allez prendre l'arbre, vous allez être comme Dieu, connaître le bien et le mal.
C'est ça.
Et après, il a réussi à convaincre Rava, qui a convaincu son mari. D'accord? Après, Rava, elle a dit à son mari, elle a dit, regarde, Dieu, il a dit que si on touche l'arbre, on va mourir. Ils ont touché l'arbre. Le serpent a poussé contre l'arbre, il est pas mort. Donc, il dit, voilà, tu vois, l'injonction n'est pas, enfin, peut-être c'est pas cet arbre, etc. D'accord? Ensuite, ils ont consommé de l'arbre défendu. Et après, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, pourquoi vous avez consommé l'arbre qu'à cause de ça, vous allez être comme Dieu qui connaissent le bien et le mal? C'est Dieu qui a validé ça. Ça veut dire que depuis le moment où on a consommé l'arbre, on est des hommes qui connaissent le bien et le mal. Yodre, Tov, Vara.
Pourquoi il a puni alors?
Ok. Pourquoi?
Il a été puni.
C'est, qui a dit que c'est une punition?
Adam Arishon.
Ça s'appelle une punition?
Ah bah oui.
D'accord, bon.
Non,
c'est pas oui, tu peux appeler une punition. Oui,
le péché originel ne vient
pas de nous. Plus
ok.
La notion de péché originel.
Bon, Rabotaille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie de bâcler la suite. Il y a beaucoup de choses pour dans la suite. Donc, bien sûr, prête en hébreu, c'est un manquement, mais j'y reviendrai. Le thème de la semaine prochaine, Ezrat Hashem, on fera la deuxième partie du chapitre 22. Donc, on va développer plus longuement pourquoi Kadosh Baruch Hu devait créer le mal. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'était d'expliquer la différence entre le chemin du bien et le chemin du mal. De face, de dos. Des choses que Dieu veut donner, des choses que Dieu doit créer, mais qu'il ne veut pas créer, mais que c'est des choses qui sont indirectes. Pourquoi Dieu doit créer le mal? On a donné une première réponse à l'oral. On a dit parce qu'il fallait créer le libre-arbitre. Mais il y a encore plusieurs réponses. Plusieurs réponses à cette question. Pourquoi Dieu devait créer le mal? Mais ça, Bezrat Hashem, on va développer plus longuement. On va définir ensemble qu'est-ce que la volonté de Dieu. D'accord? Quelle est la volonté absolue? Qu'est-ce qui n'est pas la volonté absolue? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Comment une personne meurt? La mort, c'est l'impureté?
Oui.
Alors quoi? Un mort, c'est mauvais?
Non, on va mettre tout.
Il n'y a pas plus pur qu'un mort. Mais le mort, quand il va chez Akadosh Baruch Hu, il est purifié.
Ça va.
J'ai compris. Mais le corps, il n'a rien fait, le corps.
Il est complètement impur.
Bon, on va développer tout ça. Quelle est la définition de la mort? Quelle est la définition de tout ça? C'est-à-dire, on va essayer de rentrer dans plus de définitions pour expliquer qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal.
À tel point qu'il est impur, bien sûr. Quand on va dans un cimetière, on est sûr laver les morts.
Oui. D'accord, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est l'impureté? Nous, pour l'impureté, on a utilisé le mot français. Impureté, ça veut dire c'est sale. L'impureté, c'est pas la saleté. On est d'accord? Tu sais que pour faire une utilité d'Aïm, on doit avoir les mains propres.
Ah oui.
C'est vrai, c'est sérieux. Si t'as les mains sales, tu dois d'abord bien te laver les mains et après tu fais une tête de deuil. Alors à quoi ça sert? Parce que j'ai les mains impures, maintenant elles sont propres mes mains. Donc le problème qu'on a, c'est qu'en français, on a associé impureté à saleté, ce qui est complètement faux. On va développer ça la semaine prochaine. Je vais pas vous, voilà, c'est un petit preview. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui.